faut se mettre dans la psychologie de tous ces explorateurs. Tous sont habités par une passion intérieure. Le pôle Nord est un point unique à la surface de la Terre. Cet axe de la Terre est d'autant plus unique qu'au moment même où on met le pied sur lui, il disparaît.
Box.
L'homme peut-il contrôler sa destinée? C'est la question à laquelle j'espère trouver une réponse.
Jukebox.
Des histoires en musique.
Oh, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer.
À bon Richardo.
Une page d'histoire mise en récit par un texte, des archives et des musiques choisies chaque dimanche à 15h sur France Culture. Voici Jukebox. Il y a tout juste un siècle, en décembre 1911, le Norvégien Amundsen était le premier humain à atteindre le pôle Sud. L'occasion pour Jukebox de revenir sur les traces de quelques fameux explorateurs qui nous ont permis de mieux connaître ces extrémités terrestres. Charcot, Shackleton ou Paul-Émile Victor. En bateau, à ski, en traîneau, puis à l'aide de véhicules à chenilles, ces intrépides et leurs équipiers avaient affronté les températures extrêmes, la faim, la folie des chiens, l'errance sur la banquise ou les mortels resserrements du pack guidés par leur curiosité. Dans cette histoire, on croisera des icebergs, des tempêtes homériques, des tentes trop courtes, le chant de baleines ou de phoques barbus et d'incroyables leçons de courage. Aujourd'hui, Jukebox à la conquête des pôles.
L'aventure de la découverte de la Terre est aujourd'hui vivante. Elle a le visage des jeunes gens qui partent des laboratoires vers les forêts, les déserts ou les glaces. Vous les connaissez, car on vous renseigne sur eux et sur leurs travaux. L'aventure, mais elle est chaque jour dans votre journal. Nous allons vous donner leur témoignage. Voici le premier à vous parler. Paul-Émile Victor. Il continue l'œuvre de Dumont d'Urville et de Charcot. C'est l'homme des pôles. Vous le voyez parfois à Paris, cependant, luttant pour obtenir des crédits. Ces crédits dont 30 explorateurs français ont besoin pour rester sur la calotte glaciaire. Des crédits pour que la France conserve ses terres du pôle Sud. Mais il faut également penser à lui, vêtu de son anorak, sur une plaine de neige, au milieu de ses camarades.
Alors, pensons à lui. Nous sommes en 1956 et Paul-Émile Victor est, une nouvelle fois, loin de chez lui. Il est reparti en Antarctique, venu pour la première fois fouler la Terre Adélie afin de reconnaître cette zone où seront construites, 3 ans plus tard, 2 bases françaises permanentes. À 49 ans, Paul-Émile Victor règne depuis des années sur les explorations polaires françaises. Doté d'un incroyable charisme, d'un sourire enjôleur, d'un don pour les relations publiques et de solides liens avec le gouvernement, il est au sommet de sa gloire. Cultivé, plein d'humour, il manie à merveille les aphorismes du style « Ce n'est pas ce que nous sommes qui nous empêche de réaliser nos rêves, c'est ce que nous croyons que nous ne sommes pas ». À l'époque, pourtant, si l'on admire l'endurance, l'audace, voire l'héroïsme de ces explorations, certains, dans l'opinion française, se demandent parfois à quoi elles servent. On interroge leur rentabilité scientifique et Paul-Émile Victor est sommé de justifier leur légitimité. Ce matin-là, est-ce l'effet de la fatigue? Il doute. À quoi bon tout cela? C'est bête, mais en pleine Antarctique, Paul-Émile Victor a froid. Malgré son équipement et sa longue habitude des températures extrêmes, il grelotte. Soudain, il pense à Henry Purcell et au génie du froid, du roi Arthur.
Wow.
L'air du génie du froid, composé par Henry Purcell pour l'opéra King Arthur et interprété en 2010 par le contre-ténor Andreas Scholl. Ce jour de 1956, pour chasser son vague à l'âme, Paul-Émile Victor repense au chemin parcouru. Il se revoit 20 ans plus tôt, tout jeune explorateur. Il repense à ses premiers pas sur la banquise quand il avait débarqué en 1934 sur la côte est du Groenland, accompagné d'un médecin anthropologue, d'un géologue et d'un cinéaste. Il y avait passé un an auprès des Inuits, apprenant leur langue. Au retour en France, accueilli en héros, il était devenu l'objet de fascination du grand public, enchaînant les conférences Salle Pleyel. L'année suivante, rebelote. Il avait cette fois réalisé l'exploit de traverser ce même Groenland, et ce, en traîneau à chien, d'ouest en est. 49 jours d'une traversée rude, mauvais temps et blizzard. Il avait fallu régulièrement tuer les chiens devenus inutiles à mesure que la charge transportée diminuait. À l'arrivée, 600 km plus tard, ses compagnons étaient repartis, mais lui était resté seul, 14 mois supplémentaires, au sein d'une famille inuite, vivant comme un Esquimau parmi les Esquimaux. Paul-Émile Victor repense à Doumidia, une ravissante Inuite de 19 ans, dans les bras de qui il avait passé ses longs mois. Les Inuits et leur sens incomparable du chant. Étonnant destin que celui de ce Paul-Émile Victor, né à Genève, élevé dans le Jura, ce fils d'un fabricant de pipes de bruyère, avait attrapé le virus du voyage très tôt. Lorsqu'enfant, il allait se réfugier dans le grenier de la maison familiale de Lons-le-Saunier, où, à la lumière grise qui tombait de la lucarne du grenier, il passait ses journées plongées dans des revues et des récits d'aventures, d'exploration ou d'ethnologie. Par la suite, désireux de bourlinguer sur les océans, il s'était inscrit à l'École nationale de navigation maritime de Marseille, avait fait son service dans la marine, mais s'y était ennuyé ferme sur des navires hydrographiques au large de Saint-Malo. Il avait fini par revenir travailler dans l'entreprise paternelle, passant toutefois pour se distraire un brevet de pilote d'avion et trouvant finalement dans des études de lettres et d'ethnologie matière à voyager, lui qui n'avait eu toute sa vie qu'une seule ambition, l'aventure.
Ils s'en sont allés aussi loin que leur bateau pouvait les emporter pour savoir ce qu'on trouvait au bout de l'univers, pour savoir où finissait la mer. Ils se sont perdus entre le soleil et l'eau qui n'en finissent plus, accrochés dans les haubans, les yeux vers l'horizon, à deux doigts d'en perdre la raison. Pour tenir, pour ne pas se laisser mourir, ce qu'il leur a fallu subir, le saura-t-on jamais? Mais Dieu leur a donné des princesses pour esclaves et des rois enchaînés, et les clés d'un paradis, d'un monde merveilleux, des empires aux trésors fabuleux, fabuleux. Ils étaient partis parce qu'ils devaient trouver le monde trop petit, dégoûtés par les amis, déçus par leurs amours, fatigués de vivre au jour le jour. Les uns sont restés et leurs noms sont maintenant appris des écoliers. Ils ont dû mourir un jour en contemplant au nu les étoiles d'un ciel inconnu. Certains moins heureux sont un jour revenus chez eux pour vieillir au coin d'un grand feu, dévorés de regrets. Mais d'autres partiront et ce qu'ont fait leurs aînés, ceux-là le referont quand la terre n'aura plus aucun secret pour eux. Ils iront conquérir dans les cieux ces Eldorado, ces immensités dont nous font cadeau les aventuriers.
Charles Aznavour, Les Aventuriers, 1963.
On arrive dans un pays complètement inconnu. On y installe une base, on y travaille, d'accord. Mais une des parties les plus essentielles de la mission, d'une mission polaire, c'est de reconnaître le pays dans lequel la mission hiverne.
Et les moyens d'effectuer un raid en terre polaire, quels sont-ils?
Eh bien, il y a d'abord le moyen le plus simple, c'est un traîneau tiré par des hommes, à pied ou à ski.
Et c'est la méthode que vous avez employée lorsque vous avez traversé tous les deux le Spitzberg.
Exactement, avec Jean Martin, nous étions trois à ski, tirant un traîneau chargé de 150 ou 200 kilos. La méthode a été employée très fréquemment par les équipes de Scott. Il y a le traîneau à chiens. Le traîneau à chiens a été développé considérablement par les Norvégiens, puis par les Anglais. Enfin, il y a les méthodes mécanisées, en quelque sorte, les véhicules à chenilles.
En Terre Adélie, le raid que vous avez accompli, vous l'avez accompli dans quelles conditions, avec quels moyens?
Nous avions deux weasel ou tracteurs chenillés et nous avions des attelages de chiens. Nous avons essayé, pour atteindre le but que nous nous sommes proposés, de faire une combinaison harmonieuse des traîneaux à chiens et des véhicules à chenilles.
Juillet 1951, évocation de la toute première expédition française en Terre Adélie, conduite un an plus tôt. Initiée par Paul-Émile Victor, ce dernier n'y avait pourtant pas participé, resté à Paris pour trouver des financements. Et le 20 janvier 1950, c'est sous la conduite d'André-Franck Lyotard que 10 hommes, parmi lesquels Robert Pommier, responsable des chiens et traîneaux, avaient posé le pied sur ce bout du monde mythique, découvert un siècle plus tôt par Dumont d'Urville et baptisé par ce dernier en hommage à sa femme, Adélie. Paul-Émile Victor, ce jour de 1956, repense aux difficultés des temps passés. Il sait que l'âge héroïque de l'exploration de l'Antarctique est bel et bien terminé. Le temps des pionniers de la fin du 19e siècle, de l'Américain Robert Speary, du Norvégien Nansen ou encore de l'Italien Umberto Nobile. Ce temps où les hommes partaient à l'assaut de terres dont ils ne connaissaient rien, seulement portés par l'honneur, la gloire et le désir de faire progresser la science et la connaissance. Les temps, déjà, n'étaient plus les mêmes. Paul-Émile Victor bénéficiait désormais des progrès de la technique, ayant fait fabriquer des chenilles spéciales pour faciliter la progression sur les glaces. Victor, qui se souvient alors de Charcot, son mentor, celui qui lui avait donné sa chance au tout début. Charcot, lui, qui avait été un vrai héros. Tu puisses nager comme nagent les dauphins. Bien que rien ne nous retienne ensemble, nous pouvons les battre pour l'éternité. Nous pouvons être des héros, rien qu'un jour. Composé par David Bowie et Brian Eno à Berlin et paru en 1977 sur l'album du même nom, Heroes, reprise ici par Peter Gabriel en 2010. Paul-Émile Victor en 1967 à propos de Charcot.
les qualités qu'il fallait à un homme comme Charcot et ses compagnons et les qualités qu'il faut à mes compagnons à moi, ce n'est pas comparable. Du temps de Charcot, c'était de l'exploration, de la vraie exploration, où les qualités physiques et morales de chacun comptaient beaucoup plus que leurs connaissances techniques ou scientifiques. Tandis que nous, aujourd'hui, nous avons des avions, des hélicoptères, des véhicules à chenilles, des bases extrêmement confortables, des laboratoires scientifiques aussi confortables que les plus modernes laboratoires scientifiques de France. Ce sont par conséquent deux choses qui ne sont pratiquement pas comparables. Il me semble qu'on peut tout de même trouver quelques termes qui n'ont pas varié. C'est surtout et à la base une très stricte honnêteté d'esprit. Quand on part dans des régions relativement moins connues, il est extrêmement facile de revenir en racontant des histoires, étant donné qu'on redécouvre souvent des choses qui ont déjà été étudiées, mais qui n'ont pas été publiées pour le grand public. Si on manque d'honnêteté intellectuelle, on s'attribue ces découvertes.
Jean-Baptiste Charcot, qui donc, entre 1907 et 1910, s'était lancé à l'assaut de l'Antarctique à bord d'un navire baptisé, non sans un charme ironique, le Pourquoi pas.
Pourquoi pas? J'ai fait une petite chanson, pourquoi pas? Le titre me paraît bon, pourquoi pas? Mais les couplets sont ratés, vous me voyez hésiter, oserais-je les chanter? Pourquoi pas? Le navigateur Charcot, pourquoi pas, appelle ainsi son bateau, pourquoi pas. J'ai donc copié sur Charcot, comme Pierre Benoît sur Hugo. Serais-je donc un saligo? Pourquoi pas. On annonce la fin de la crise, pourquoi pas. C'est peut-être la reprise, pourquoi pas. Levant son front alourdi, un commerçant m'a dit, oui, on achète, mais à crédit, pourquoi pas. On prend le samedi matin, pourquoi pas, une petite robe de satin, pourquoi pas, et après l'avoir sortie le dimanche après-midi, on la rapporte le lundi, pourquoi pas. Les transports haussent leurs tarifs, pourquoi pas, cela devient abusif, pourquoi pas. Le directeur, évidemment, se dit, je n'ai pas de concurrent, je peux écorcher mes clients, pourquoi pas. Il peut même aller plus fort, pourquoi pas. Hausser les tarifs encore, pourquoi pas. Quant à nous, sans sourciller, quand nous ne serons pas surveillés, nous descendrons sans payer, pourquoi pas. Marnaf est de l'Académie, pourquoi pas. Tampion joue la comédie, pourquoi pas. Ministre et Monsieur Jean Durand, on se demande pourquoi vraiment, mais on peut se dire également, pourquoi pas. À Rome, Raquel fut béni, pourquoi pas. Alors, crevant de jalousie, pourquoi pas. Miss Tinguette s'est écriée, moi je m'en fous, pour l'écraser, zut, je me fais béatifier. Pourquoi pas. J'ai vu hier des employés, pourquoi pas, qui voulaient être payés, pourquoi pas. Mais par malheur, leur patron ne voulait pas leur fiche un rond. Ils tiennent à leur picaillon, pourquoi pas. Et les employés ont dit, pourquoi pas, payez-nous ou songez-y, pourquoi pas. Nous pouvons crever sur l'heure, mais froidement les directeurs répondirent tous en cœur, pourquoi pas. À Montmartre j'ai chanté, pourquoi pas, des refrains qui ont porté, pourquoi pas, sur les revues de musicole, j'ai dit pour qu'on en rigole, que c'était une triste école, pourquoi pas. Je me suis mis en colère, pourquoi pas, contre Joséphine Baker, pourquoi pas. Et voilà mes bons amis, qu'avec Baker aujourd'hui, je suis au Casino de Paris. Pourquoi pas ?
À la question que se posait en 1932 le chansonnier et dramaturge René Dorin, Charcot avait donc répondu « Parce que... » Parce qu'il fallait aller voir. Parce qu'à quoi bon, sinon, être né dans la soie de Neuilly-sur-Seine, d'un père illustre neurologue, avoir fréquenté un lycée privé, fait du sport et de la voile l'été dans le Calvados, si ce n'est pour tenter au moins de repousser les frontières du possible. Adolescent déjà, le jeune Jean-Baptiste avait rédigé les aventures d'un trois-mâts en Patagonie que le petit journal illustré avait publié. Des voyages auxquels son père très tôt lui avait donné le goût, l'emmenant au Pays de Galles, dans les îles Shetland, aux Hébrides, mais aussi plus au nord, dans les îles Féroé, en Islande, en Norvège. mais aussi en Espagne et au Maroc, ces derniers lui inspirant une véritable phobie des pays chauds. Un service militaire effectué dans les chasseurs alpins et le voilà, comme son père, devenu toubib. Quand il ne joue pas au rugby à un haut niveau, n'épouse pas la fille de Victor Hugo ou ne navigue à bord de bateaux qu'il se fait construire et qui l'emmènent des îles britanniques jusque sur le Nil. Puis, en 1901, il réalise des recherches nautiques, météorologiques et microbiologiques. Charcot, qui avait des projets de voyage en Arctique, décide finalement de se tourner vers l'Antarctique, plus au sud, dont la France semble alors ne pas vouloir se soucier. Il investit sa fortune personnelle dans le montage de l'expédition et en 1903, le voilà parti pour la première expédition française en Antarctique depuis Dumont-Durville, y effectuant pour l'occasion le tout premier hivernage d'une expédition scientifique dans les pôles. 1000 km de côtes relevées, 3 cartes marines détaillées, 75 caisses d'observation, de notes et de mesures. Puis, en 1907, s'étant remarié avec la fille d'un célèbre avocat parisien, Charcot avait lancé une nouvelle expédition en Antarctique sur le pourquoi pas quatrième du nom, un vrai bateau d'exploration polaire de 40 mètres, gréé de 3 mâts mais aussi équipé d'un moteur et comportant laboratoire et bibliothèque. Lancée l'été 1908, l'expédition s'était révélée périlleuse. La faute notamment au scorbut qui alors décime les hommes, comme en témoignait plus tard Jules Rouch, le père du cinéaste et membre de cette même expédition.
Évidemment, commandant, les conditions alimentaires devaient être assez précaires.
Elles étaient d'autant plus précaires qu'à ce moment-là, les vitamines étaient inconnues et nous ne vivions que de conserves. Et ces conserves, après avoir traversé les mers chaudes de l'océan Atlantique pour arriver aux mers froides de l'Antarctique, c'était plus ou moins bien conservé. Et elles ont été à l'origine, certainement, du scorbut qui a accablé plusieurs de nos camarades et quelquefois d'une façon assez dangereuse qui nous faisait craindre de les voir disparaître. Charcot lui-même a été victime du scorbut et a été forcé de renoncer lui-même à faire quelques excursions sérieuses autour du point d'hivernage. Nous n'avions pas d'autre remède contre le scorbut que les remèdes dont se servaient les navigateurs d'autrefois, c'est-à-dire le jus de citron conservé que nous absorbions consciencieusement avant chaque repas. Malheureusement, ces conserves assez mal conservées ont donné ces maladies qui sont maintenant complètement inconnues des explorateurs modernes, car les vitamines que l'on peut transporter rendent de cette maladie absolument inconnus à l'heure actuelle des explorateurs polaires. Mais jusqu'à la guerre de 1914, et même quelques années plus tard, il y a eu encore, dans les expéditions polaires, tant du nord que du sud, des cas de scorbut.
Le scorbut qui induit une moindre résistance aux infections, mais aussi, on s'en doute, au froid.
France Culture, Jukebox, aujourd'hui, ce temps où la banquise brillait.
Je m'interroge. Pourquoi donc ai-je les pieds glacés dans mes chaussures? La chose est sûre, il doit y avoir des trous qui sont percés. J'ai froid les pieds.
C'est pas français.
Hein?
C'est pas français.
Français ou russe, bougre d'andouille, ça n'empêche pas que j'ai froid. Les pieds qui se mouillent. J'ai froid les pieds.
C'est pas français. C'est pas français.
Français, russe ou n'importe quoi, ça n'empêche pas que j'ai les pieds froids. Oh, et puis ça dégringole, hein. Oh là là, qu'est-ce qui tombe? Dans mes chaussures, la chose est sûre, il y a des trous par-ci, par-là. Quand c'est qui flotte, faudrait des bottes. Mais des bottes, je n'en ai pas. J'ai froid les pieds.
C'est pas français.
Encore lui?
C'est pas français.
Au lieu de me faire de la morale, tu ferais mieux de me prêter 5 ou 10 balles. J'ai froid les pieds.
C'est pas français. C'est pas français.
Français, russe ou n'importe quoi, ça n'empêche pas que j'ai les pieds froids. Et lui toujours avec son c'est pas français, il commence à m'embêter, oh. Et je patauge, et flaque dans les flaques des pavés crevés. C'est jour de fête pour mes chaussettes, depuis 4, 5, 6, 7 mois qu'elles étaient pas lavées. J'ai froid les pieds.
C'est pas français.
Ah non,
c'est pas français.
français ou russe, bougre d'andouille, ça n'empêche pas que j'ai froid. Les pieds qui se mouillent, j'ai froid les pieds, j'ai froid les pieds, j'ai froid les pieds, j'ai froid les pieds.
C'est pas français, c'est pas français.
Oh, 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 la barbe avec son c'est pas français, hein. Comment ce qu'on dit alors en français?
En français, on dit j'ai froid aux pieds.
J'ai froid aux pieds, je froid les pieds, je froid aux pieds. Oh, bah alors, ça n'empêche pas que j'ai froid, ça n'empêche pas que j'ai froid, ça n'empêche pas que j'ai froid. T'aux pieds.
Annie Cordy, J'ai froid les pieds, 1964. Par la suite, Charcot avait effectué de nombreuses autres expéditions moins lointaines, jusqu'à l'été 1934, où, rencontrant un jeune passionné, Paul-Émile Victor, Charcot, séduit, l'avait conduit jusqu'au Groenland, l'installant pour une mission ethnographique. L'année suivante, il était revenu chercher le jeune homme et ses compagnons avant d'aller poursuivre l'exploration de ces régions. En septembre 1936, il était retourné au Groenland, ravitailler la seconde mission de Victor, mais au retour, pris dans un violent cyclone, Charcot avait péri avec 22 autres compagnons. Charcot, qui, suprême élégance des grands hommes, avait pris soin, au moment où leur navire allait sombrer, de libérer de sa cage une mouette devenue la mascotte de l'équipage. Le mouvement rapide du concerto numéro 5 en mi bémol majeur, aussi appelé la Tempesta di Mare, la tempête maritime, composée vers 1724 par Vivaldi et interprétée ici par l'ensemble Europa Galante sous la conduite de Fabio Biondi. Cette nuit de 1936, donc, Charcot avait trouvé la mort et 20 ans plus tard, Paul-Émile Victor se souvenait que cela avait été en partie pour venir le ravitailler. Tant d'illustres pionniers des pôles avaient ainsi trouvé la mort dans l'accomplissement de leurs exploits. L'un des plus remarquables s'appelait Lord Shackleton, disparu en 1922, succombant à une crise cardiaque lors d'une ultime expédition en Arctique. Shackleton, qui avait marqué l'histoire par une incroyable odyssée accomplie des années plus tôt. Encore que, en réalité, l'équipée fantastique qu'il avait conduite en 1914 en Antarctique s'était soldée par un échec. Mais quel échec ! À cette époque, le pôle Sud, déjà conquis par le Norvégien Roald Amundsen, restait encore à être réellement abordé et traversé. Ce que s'était fixé comme objectif cet Irlandais, anobli par Edward VII à la suite d'une précédente expédition, espérant relier la mer de Weddell à la mer de Ross. Pour ce faire, Shackleton avait recruté 26 hommes, triés parmi 5000 candidatures, et en août 1914, tout ce petit monde avait quitté l'Europe, le jour même où la guerre s'était déclarée avec l'Allemagne, à bord d'un navire au nom prédestiné, l'Endurance. Raconté dans les mémoires d'Ernest Shackleton, l'Odyssée de l'Endurance constitue un incroyable témoignage du courage démontré par ces hommes, leur abnégation face aux conditions extrêmes, le froid qu'il faut les nuits se résoudre à surmonter, emmailloté dans des fourrures aux poils éternellement humides et gelés, la faim et les rations de nourriture réduites à presque rien, les béances imprévisibles de la glace, les mortels resserrements du pack et la navigation aléatoire parmi les icebergs.
Iceberg a sur l'épaule nord une petite boucle d'or, et sur l'épaule sud une grande solitude. Mr. Iceberg hausse l'épaule nord pour secouer la fille qui dort, puis hausse l'épaule sud comme à l'habitude. Mr. Iceberg, Mr. Iceberg, Mr. Iceberg,
Mr. Iceberg.
un des titres oubliés de Serge Gainsbourg, ce Mr. Iceberg, publié en 1978. Les icebergs et les imprévisibles ruptures de la glace qui, année après année, avaient épuisé les membres de l'expédition Shackleton dans une interminable errance. De retour en Europe, en mai 1917, ils apprenaient officiellement que, depuis le jour même de leur départ, 3 ans plus tôt, l'Angleterre et l'Europe étaient plongées dans un autre drame, celui d'une guerre mondiale et absurde à laquelle aucun, pourtant, ne chercha à se soustraire, s'enrôlant pour en rejoindre les champs de bataille de France ou de Belgique, et pour certains, y perdant la vie qu'ils avaient tant lutté pour sauvegarder dans l'Antarctique. Sur le champ magnifique des baleines et de quelques phoques barbus, revenons maintenant aux années 1950 et à Paul-Émile Victor, qui règne donc ces années-là sur les expéditions polaires françaises. Après-guerre, 150 missions sont menées au nord comme au sud, et notamment donc celle conduite par André-Franck Lyotard en Terre Adélie en 1950. Si l'âge d'or des pionniers était alors officiellement refermé, ces voyages n'en demeuraient pas moins des épreuves, comme en témoignaient l'ingénieur Yves Valette et le responsable des chiens et traîneaux Robert Pommier au micro de l'ORTF en 1951.
Avez-vous eu la chance d'avoir du beau temps ?
Oh non, le temps a été épouvantable. Au départ, nous comptions sur 1 jour sur 3 d'immobilisés sous la tente. En fait, nous avons eu presque 1 jour sur 2 où nous n'avons pas pu partir. Nous avons été bloqués quelquefois 6 jours de suite sous la tente avec un vent de 120 ou 150 km à l'heure. Un chasse-neige dans lequel on n'y voyait pas 1 mètre, il n'y avait rien d'autre à faire que rester dans son sac de couchage et lire. Et juste sortir pour nourrir les chiens.
Et bloquer 6 jours dans une tente qui fait quelle dimension ?
Qui fait 2,50 m sur 2,50 m, même pas.
Non, 1,80 m, puisque oui, c'est moi qui avais commandé les tentes et vous me faisiez des reproches.
1,80 m sur 1,80 m.
Les pieds de Schwartz et sa tête touchaient la paroi.
Nous avons eu en tout, c'est simple, 4 jours de temps à peu près beau, il y avait du soleil, vent très faible, 10 km à l'heure, pas plus, blizzard, très léger chasse-neige au sol. Mais nous avons eu environ 12 jours de temps avec blizzard au sol, vent entre 30 km à l'heure et 50 km à l'heure, mettons 6-7 jours encore de vent 80 km à l'heure avec blizzard de 1,50 m de haut, chasse-neige de 1,50 m de haut, dans lequel on pouvait encore avancer. Et le reste, comme j'ai dit, immobilisé sous la tente.
Peut-être alors ce jour de 1950, pour se donner un peu de courage face à l'adversité des éléments, ces hommes s'étaient-ils mis à fredonner un air sorti quelques mois plus tôt et interprété par un certain Henri Salvador.
Quand le facteur part en tournée, on l'entend toute la matinée fredonner. Parce que ça lui donne du courage, ça lui remet le cœur à l'ouvrage. Et le peintre en bâtiment, quand il repeint l'appartement, chante gaiement. L'air de Guillaume Tell sur sa grande échelle, parce que ça lui donne du courage, ça lui remet le cœur à l'ouvrage. Mais le notaire qu'on voit passer avec son œil glacé, sa petite serviette, son pardessus et son air compassé, rasant les murs du vieux lycée à petits pas pressés. Oh, qu'il est triste, triste, triste. Alors moi, quand ça ne va pas, ben j'ai compris, je chante comme ça, tra-la-la, tra-la-la, parce que ça me... Ça me remet le cœur à l'ouvrage. Sans tic-tac, l'horloge s'arrêtait. Sans clochette, pas de troupeau. Sans amour, les gens s'embêtent. Sans chanson, pas de cœur au boulot. Sans chanson, pas de cœur au boulot. Quand le facteur part en tournée, on l'entend toute la matinée fredonner. Parce que ça lui donne du courage, ça lui remet le Et le plongeur de la guinguette quand il jongle avec ses assiettes chante à tue-tête. L'air de Miss Elliott et l'escarpolette, parce que ça lui donne du courage, ça lui remet le cœur à l'ouvrage. Monsieur Mathieu le contentieux, 37 rue Richelieu, un triste lieu sombre et crasseux, tout plein de papier bleu, des lunettes noires qui lui font voir un monde sans espoir. Ah, qu'il est triste, triste, triste. Alors moi, quand ça ne va pas, ben j'ai compris, je chante comme ça, tra-la-la, broum-poum-poum-poum-poum-poum, parce que ça me donne du courage. Ça me remet le cœur à l'ouvrage. Sans tic-tac, l'horloge s'arrête. Sans clochette, pas de troupeau. Sans amour, les gens s'embêtent. Sans chanson, pas de cœur au boulot. Sans chanson, pas de cœur au boulot.
Henri Salvador, parce que ça me donne du courage, 1949. Se redonner chaque jour de l'allant face au péril permanent, exigeant de la part des hommes une concentration sans faille.
Il y a une chose qui compte beaucoup lorsqu'on est en raid, c'est la sensation, l'impression de chaque mètre de terrain gagné. Chaque mètre fait n'est plus à faire.
Et il est un fait que cette appréhension, c'est pas le mot peur est trop fort, mais cette appréhension est si grande qu'on ne plaisante pas en raid. Quand tout semble très bien aller, une petite erreur peut entraîner la catastrophe en une demi-heure. Il suffit, par exemple, qu'on ait mal monté la tente parce qu'on était un peu fatigué, le temps était encore assez beau, le coin de la tente s'envole, se déchire, tout le monde sort dehors, on surveille mal les chiens qui, pendant ce temps-là, mangent une caisse de nourriture. On se retrouve au bout d'une demi-heure avec 10 jours de moins de vivres, une tente à moitié déchirée, un sac de couchage envolé, on est pratiquement perdu. On en a pour 6 heures à vivre et c'est tout.
Enfin, ça arrive, ça nous est pas arrivé à nous et c'est arrivé rarement à d'autres. Précisément parce qu'on fait toujours très attention à ce qu'on fait, on met une espèce de gravité dans tous ces mouvements.
En fait, il y avait un accord tacite entre nous à bord de Weasel, on ne parle pas sur une auto-chenille.
On ne bavarde pas la plus forte raison en traîneau, puisqu'on est seul, n'est-ce pas? L'homme qui ouvre la marche à ski est à une centaine de mètres ou 200 mètres devant, le premier traîneau vient ensuite et le second traîneau est à 300 mètres derrière. Donc chacun des trois membres d'un raid en traîneau, nous étions trois, enfin c'est notre cas, est complètement isolé.
Une des plus grandes satisfactions que j'éprouve aujourd'hui après
Paul-Émile Victor, 1967.
Après 20 ans d'expédition polaire française, une des plus grandes satisfactions que j'éprouve, c'est que, avec mes camarades, nous formons véritablement une équipe. Ça, c'est pas un mot en l'air. Par l'expérience en commun que nous avons, d'un groupe isolé, ayant un but bien précis, où chacun est nécessaire. Depuis près de 20 ans, on retrouve toujours les mêmes. Il s'est créé entre nous des liens d'amitié, d'affection extrêmement solides qui ne s'expriment jamais en paroles, c'est tout à fait inutile, et qui s'expriment dans les faits. Nous sommes partis ensemble sur le terrain, c'était là dans des conditions dans lesquelles il n'est pas possible de faire une façade. L'homme que nous croyons être disparaît dans des conditions difficiles. L'homme que nous sommes au fond de nous-mêmes et que nous ne connaissons pas apparaît. Quelquefois c'est pas très joli, quelquefois c'est mieux, on n'en sait rien. Toujours est-il que on finit par se connaître tellement bien, beaucoup mieux qu'on ne se connaît autrement dans une vie normale. Malgré ces difficultés, car ça ne représente rien d'autre que des difficultés supplémentaires dans une vie en commun, de tout à coup se voir soi-même et de voir les autres comme ils sont en réalité, cette équipe est formée pratiquement toujours des mêmes depuis 20 ans. Ça, c'est une de mes plus grandes satisfactions et je crois que ça répond à peu près à votre première question. Run away, skedaddle.
You're somebody else's darling, so I have no right to
Though you must know my arms want you so. Run away, skedaddle, skidoo. Run away, skedaddle, skidoo. I don't want your love, my darling, until it's honest and true. True love can't be found by slipping around. Run away, skedaddle, skidoo. Run away, skedaddle, skidoo. Run away before it's too late, my love, for I can't resist wanting you until you are free to love only me. Run away, skedaddle, skidoo. Run away, skedaddle, skidoo, until you are free to love only me. Run away, skedaddle, skidoo. Run away.
Par la suite, tandis que le reste de l'humanité découvrait les joies des sports sur glace à l'image de l'américaine Doris Day pour ce Runaway Skididdle Skidoo, la colonisation des pôles s'était accélérée. En 58, des tracteurs Ferguson étaient lancés en Antarctique. En 69, les premières femmes mettaient le pied au pôle sud. En 1980, était menée une expédition baptisée Transglobe, effectuant un tour du monde via les deux pôles. 7 ans plus tard, en 1987, les premiers touristes polaires débarquaient en avion. Cette année-là, Paul-Émile Victor, 80 ans, vivait retiré à Bora Bora, en Polynésie, sur un minuscule îlot planté de palmiers et entouré de perroquets. Mais, la nostalgie aidant, il avait décidé de se racheter une doudoune et un équipement polaire pour filer retrouver les glaces de sa jeunesse en Terre Adélie, puis en Arctique. Des pôles dont il s'inquiétait avant de disparaître, des risques d'exploitation minière et de la préservation de leur virginité. Depuis, comme chacun sait, le réchauffement climatique fait fondre la banquise comme jamais. En Alaska, en Russie, en Norvège, en Finlande, en Suède, comme au Canada ou au Groenland, l'augmentation des températures y est 2 fois plus rapide que sur le reste du globe. L'amenuisement du rêve blanc y semble inéluctable. L'horizon de l'exploration n'y sera sans doute plus jamais la même.
Nous n'irons pas plus loin, te dit le capitaine. Trop d'obstacles aujourd'hui pour gagner l'horizon. Des baleines épuisées gémissent sur la grève. Leur sang couvre des bouches comme autant d'hameçons, comme autant de collines occultant l'horizon. De crêtes insensibles à la nature des plaines. Je suis vraiment navré, te dit le capitaine. Et tu sens qu'il dit vrai et qu'il a le cœur bon. Dès lors la bouche fermée d'une femme au harpon qui entre dans tes murs et saigne les baleines. Te fait des mois durant dédaigner l'horizon. Et lorsque tu le croises, snobber le capitaine. Quand tu rentres chez toi, tu te dis qu'il fait bon. Le mensonge est partout, infiltré dans tes veines. Tant tu aimes goûter au sang de la baleine. déborde des lèvres de la femme au harpon. Mais un jour sur ta manche tire le capitaine, les yeux exorbités, il te dit repartons. Il est temps de sortir du sommeil des reines, car nul ne vous attend autant que l'horizon. C'est l'aube nord qui t'espère, l'Inlandis qui t'appelle, la Sierra Nevada qui la nuit crie ton nom. Et c'est la grande bleue qui rehausse le ciel. Chacun d'eux te réclame et t'offre l'horizon. Mais celui-ci t'échappe, stoppé dans son élan, par des sommets hargneux, des vallées encaissées, des villes au cœur de pierre, aux formes insensées. Vois, la barbe te pousse et ton pas se fait lent, et tu entends au loin les plaintes des baleines qui, avant de finir sur la grève, ont sans doute connu cet horizon dont seul le capitaine espère encore pour deux que tu croises la route. Mais un jour au silence qui monte aux alentours, comme tes yeux se décollent, tu sais qu'on t'a laissé seul avec ton vieux rêve dont l'ombre est un vautour, qui dessous tes haillons sent la chair s'assécher, les commandes de l'encercle il va pourtant entreprendre. Le décor s'aplanit, les courbes se défont, tout se dégage, oui, sans doute là de t'attendre. Celui qui vient à toi, il est là, l'horizon.
C'est sur cet horizon chanté par Dominique A que se referme ce numéro de Jukebox aujourd'hui à la conquête des pôles, une émission déjà diffusée en décembre 2017, préparée à l'époque par Cyril Baer, Viviane Lefebvre à l'INA et Romain Couturier à la documentation musicale. Jukebox se réécoute et se télécharge via l'application Radio France ou la page de l'émission où vous retrouvez la liste des éléments diffusés et la possibilité de nous écrire, à lire les livres de Paul-Émile Victor, mais aussi la magnifique leçon de courage de Lord Shackleton et de ses acolytes sous le titre « L'Odyssée de l'Endurance ». C'est publié en français chez Libretto. J'en profite pour vous rappeler l'apparition début décembre de deux livres vinyles publiés par les éditions Wagram consacrés à l'émergence du hip-hop et du funk, adaptés de deux émissions que nous avions jadis consacrées à l'émergence de ces genres. À la technique aujourd'hui, c'était Bernard Laniel, Vincent Deck à la réalisation, au micro Amaury Chardot. À dimanche 15h pour un prochain Jukebox.